Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, alors que nous sommes sur le chemin de Pâques, que nous nous apprêtions à gravement suivre le Christ dans sa passion, et c'est ce qu'il faut faire, voilà que l'Église nous donne à méditer la transfiguration, une méditation joyeuse, extraordinaire, glorieuse. En fait, nous faisons exactement ce que font les apôtres. C'est sur le chemin de sa passion, c'est après avoir annoncé cette passion qui vient, que le Seigneur va prendre trois de ses apôtres et leur faire vivre cette contemplation de la gloire de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui. Voyons d'abord la transfiguration en elle-même, puis notre fortification. Tout d'abord, la transfiguration. Le Christ resplendit de la gloire de Dieu, de sa magnificence, de sa beauté, dans un blanc éclatant qu'on ne peut regarder comme toute apparition céleste, il est difficile d'en rendre compte. Souvenez-vous, si vous avez déjà lu les souvenirs de sœur Lucie, qui avait vu des anges, puis la Vierge à Fatima, et à qui on demandait incessamment de décrire cette Vierge resplendissante, ce soleil qu'elle a vu, eh bien, on lui faisait des dessins, tous plus précis, détaillés les uns que les autres, et de guerre lasse, elle finit par dire « Era de luz, elle était de lumière, ça ne se décrit pas humainement, vraiment ». Et étonnamment, c'est exactement, ou plutôt pas étonnamment, mais incidemment, c'est ce que dit également Bernadette, elle finit par dire « Oui, c'est ça, mais en plus beau ». La vision divine que les apôtres ont vue nous rapporte le fait, ils ne peuvent pas en rapporter la nature propre intérieure de ce qu'ils ont vu, ils ont tout de même saisi quelque chose. Cette gloire de Dieu qui, pour finalement Dieu, qui pour le Christ dans sa divinité, n'a rien que de très normal, de très évident, je n'ose pas dire banal, en tout cas ça lui est dû. Ce qui est extraordinaire dans cette transfiguration, c'est que le Christ la vit dans son humanité aussi, vrai Dieu, vrai homme. Il n'est pas étonnant que sa divinité se montre glorieuse. Il est particulièrement réjouissant pour nous qui possédons la même nature que le Christ, lui qui a pris la nature humaine, et bien celle qui est promise à cette gloire, et nous pouvons penser à la nôtre. Cette transfiguration, évidemment, est une promesse de la gloire qui nous sera donnée dans l'éternité si nous nous laissons transformer, glorifier, transfigurer, sanctifier par Dieu. Oui, la figure ici qui se laisse voir n'est plus celle humaine qu'habituellement le Seigneur a donné à voir durant sa vie terrestre. Elle n'est surtout pas celle qu'il va donner à voir durant sa passion. Il montre ici la figure même de Dieu, la vraie icône, celle qui révèle l'image véritable du Père. Voilà cette gloire qu'ont entrevue les apôtres et qui nous la rapporte. Cette manifestation s'accompagne, comme toute manifestation divine, d'une profondeur infinie. Et il y a ici Élie et Moïse qui apparaissent en même temps que cette glorification de part et d'autre du Seigneur. Bien entendu, Élie et Moïse qui sont vivants, puisque le Seigneur est le Seigneur des vivants et non pas des morts, c'est ce que dira le Christ, assez contradicteur, qui représentent à eux seuls tout l'héritage de l'Ancien Testament, toute la Sainte Écriture, la loi et les prophètes, la loi pour Moïse, les prophètes pour Élie. Alors Pierre est fou de joie et il dit au Seigneur « Mais faisons ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et il compte bien camper devant cette tente, comme les Hébreux au désert eurent la chance de voyager avec la présence même de Dieu. Pierre vraiment croit qu'enfin est arrivée cette glorification tant promise et qu'il est appelé à la partager maintenant. Mais voilà qu'une nuée lumineuse, c'est un oxymore, vous le savez, car ce qui est nébuleux n'est normalement pas lumineux et ce qui est lumineux n'est pas nébuleux, mais justement, une fois de plus, c'est une manière d'attraper cette vision divine d'une manière ou d'une autre. Et cette nuée lumineuse, manifestation divine par excellence, révèle la voix du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ou toute ma complaisance. » Et voilà que de joyeux et désireux de rester là, Les apôtres tombent à la renverse, la face contre terre. Ils sont bouleversés, ils sont pris d'effroi. Ils s'aperçoivent de la véritable présence de Dieu. Ils n'en perçoivent plus seulement la gloire, mais véritablement son essence, ou tout du moins ce qu'ils peuvent en comprendre, en apercevoir. Alors, ils sont pris d'effroi, ils n'en sont pas dignes, ils pensent peut-être qu'ils vont mourir dans l'instant. Voilà cette vision divine insaisissable, malgré ce qui nous en est rapporté, cette vision de la gloire de Dieu donnée sur le chemin du carême, cette gloire de Dieu que nous voyons comme un paravent qui nous console avant d'apercevoir le Golgotha. Oui, nous allons du Tabor au Golgotha, nous savons bien que nous allons monter à Pâques jusqu'au pied de la croix pour accompagner notre Seigneur, mais comme les apôtres, nous aurons en fond d'esprit, en fond d'œil, cette gloire de Dieu. Si vous visitez Saint-Roch à Paris, je ne peux pas m'empêcher de le dire, c'est inscrit dans l'architecture, car vous êtes dans la nef et vous apercevez de loin le Golgotha, le Christ immense et magnifique dressé dans la quatrième partie de l'église. Mais auparavant, vous apercevez la gloire de Falconet dessinée et dans le dessin des anges et dans cette gloire, ces rayons de soleil qui se donnent sur la terre. Oui, une manière pour nous de comprendre comment il nous faut cheminer dans ce carême, non pas avec une désespérance d'accompagner le Christ dans sa passion, certes avec gravité, comme je l'ai dit, avec dureté, c'est celle de notre vie, les difficultés qu'il nous faut offrir dans ce carême, mais aussi avec cette espérance de la gloire de Dieu qu'ont entrevue les apôtres et qu'il vous est donnée aujourd'hui de méditer et de contempler. Voilà pour cette transfiguration, moment divin par excellence, qui n'a pas été donné par hasard, vous vous en doutez bien. Il a été donné pour que nous comprenions quelque chose de cette résurrection, de ce que va opérer la résurrection, et pour fortifier notre foi. Oui, l'annonce de la passion ne va pas sans la promesse de la résurrection. Et le Christ le dit à ses disciples, « Vous en parlerez après que je sois ressuscité ». Ses disciples, c'est Pierre, Jacques et Jean. Peut-être les autres ont-ils conçu un désir de venir aussi, nous ne savons pas. Nous avons en tout cas le désir, nous aussi, de contempler cette gloire, qu'il nous soit fait cette obole, cette part de la vision divine. En tout cas, si le Seigneur vous la donne, c'est toujours en vue d'une mission. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, comme il l'avait déjà pris Pierre, Jacques et Jean, pour les faire voir la résurrection de la fille de Jaïr. C'est eux aussi, Pierre, Jacques et Jean, qui seront emmenés au jardin des Oliviers, qui verront le Christ suer du sang et de l'eau, pleurer la condition humaine qui mène à la mort. Oui, il fortifie par avance ses disciples, et s'il vous est donné quelque chose de la compréhension divine dans l'ordre sensible ou dans l'ordre intellectuel, c'est toujours en vue d'une mission qui vous est confiée. Ce corps glorifié du Seigneur, c'est déjà celui de la résurrection. Ce corps qui sera comme le mien, ou plutôt j'espère que le mien sera comme le sien, qui sera glorifié car c'est la gloire de Dieu que l'homme vivant, écrit saint Irénée de Lyon. Oui, nous le savons, cette élection que le Seigneur fait de ses apôtres, qu'il fait de ses disciples, qu'il fait de chacun des baptisés, c'est de les choisir pour les mener jusqu'à la glorification de leur âme et de leur corps. Il voudra leur faire partager cette gloire bienheureuse qu'il possède en lui-même. Oui, en voyant le Christ transfiguré, je sais que mon pauvre corps mortel connaîtra aussi, si Dieu le veut et si j'accepte d'y coopérer dans ma petite mesure, connaîtra aussi cette gloire. Alors ma foi est fortifiée et les apôtres vont l'être aussi. Il leur est dit deux choses. La première, évidemment, n'ayez pas peur. Je dis évidemment parce que si jamais on vous interroge pour savoir quel est le commandement qui revient le plus souvent dans l'Écriture sainte, celui qui est répété plus de 300 fois dans l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien c'est celui-là, « N'ayez pas peur ». Oui, le Seigneur est venu pour réparer nos peurs, pour nous rassurer et nous consoler de ce que nous ne comprenons pas du destin du monde, de ce qui peut nous désoler de la profondeur de notre péché et de notre infidélité. N'ayez pas peur, c'est le Seigneur qui opère. En ces temps d'épidémie, de folie collective, disons-le, même si la prudence, évidemment, est toujours de mise, n'ayons pas peur, nous sommes au Christ, le Christ est à Dieu, et rien qui ne soit prévu par sa très sainte volonté ne peut nous arriver. Oui, n'ayez pas peur de vous livrer entièrement dans ce carême, de suivre le Christ jusque dans sa passion, parce qu'alors vous le suivrez dans sa résurrection. Il leur donne un deuxième commandement qui est négatif, mais qu'il faut lire dans les deux sens. Il leur demande de n'en parler à personne tant qu'il ne sera pas ressuscité. Et oui, il ne voulait pas que soit mécompris cette question de la gloire. Comme vous le savez, durant tout son ministère, il évite qu'on le fasse roi parce que les hommes n'ont pas compris quelle était la véritable royauté du Christ. Ce n'est pas une royauté immédiate et limitée, c'est une royauté plénière et éternelle. Une royauté spirituelle qui s'étend sur le monde maintenant et qui se réappropriera le monde à la fin des temps. C'est cette royauté-là qui passe par la croix, qui passe par la mort. Aussi fallait-il qu'il ressuscitât avant qu'on annonçât cette gloire qu'il possède en lui-même. Alors donc nous pouvons lire maintenant ce commandement « Allez annoncer à toutes les nations la gloire du Seigneur ». Car il est mort et ressuscité, nous le savons, il a accompli son œuvre. Il est temps pour nous, il est urgent pour nous d'annoncer le Seigneur dans sa résurrection. La joie de notre cœur doit rayonner sur notre visage. Nous devons être des semeurs de paix et de joie. On devrait reconnaître un chrétien à cela. Il apporte la joie qui ne peut passer, même dans l'épreuve, la joie de savoir que Dieu veut de nous et que c'est lui qui nous a choisis pour être glorifiés, c'est-à-dire vivants. Ainsi soit-il.